à mon tour de remercier ces sénateurs de cette journée d'étude qui me font l'amitié de m'inviter. Donc, j'ai publié cette conférence, Le cerveau noir de Goya, une histoire de la violence. La Révolution française et les guerres napoléoniennes ont marqué un point de rupture du temps dans l'esprit des contemporains. L'ampleur des bouleversements fut telle que les relations entre le sujet historique et le passé, le présent et le futur se sont trouvées brutalement redéfinies. Ce que l'on appelait alors l'historia magistra vitae, qui était autrefois dispensatrice de modèles, a soudain paru impuissante à sauvegarder l'ordre du temps. Et la sidération que les contemporains ont éprouvée devant cette succession d'événements non seulement violents, mais singuliers, inouïs, allait donc entraîner une crise du régime d'historicité et l'apparition de nouvelles modalités narratives, dont les dates de la guerre sont une des formules symptomatiques. Et Goya, donc, dans ce recueil, échantillonne le chaos de l'histoire dans sa forme tragique, qui est polarisée entre le thème de la fatalité et celui de la destinée uchronique. Tel était l'axe du premier volet d'un travail que je mène autour de la violence dans l'œuvre de Goya, et dont vous disposez peut-être du texte. Le deuxième, qui m'occupera aujourd'hui, envisage la violence par le prisme du droit. Et le troisième, enfin, que je présenterai à la fin du mois de janvier à Lille, sera consacré à la survivance du mythe et à ce que j'appelle la tragédie de la culture, dans la veine donc, des travaux d'Aviv Harbour, de Didier Berman et Walter Benjamin surtout. Alors l'idée de ma conférence d'aujourd'hui part de la composition même de l'album que Goya offre à son ami Fin del Mundo, aujourd'hui conservé au British Museum. Voilà pourquoi. Aux gravures des désastres proprement dites, Goya joint trois eaux fortes et une aquatinte reprise au premier soir. Donc voici d'abord l'aquatinte, donc le colosse, une manière d'allégorie, celle de la puissance terrible et titanesque de l'histoire. Et les trois eaux fortes, quant à elles, fixent les corps exténués de prisonniers en haillons, au fer, dans l'abîme de la dérédiction. Trois détenus qui incarnent, dans la forme ténébriste du pathos, les stigmates d'une autre violence, celle légale du droit criminel, du droit pénal. À cela, ajoutons que Goya mène de front les 82 planches des désastres et une partie des 126 dessins de l'album C. Sans parler des tableaux des 2 et 3 mai 1808, en particulier le 3 mai, dont l'image inquiète n'est rien moins que celle de la destruction des peuples. Alors, Lucien Domergue, dans son livre Goya, des délits et des peines, dresse une typologie de la violence dans l'œuvre de Goya, le garrot, la potence, l'exécution par balle, l'emprisonnement, les agents de police, les prostituées, etc. Alors, je vais adopter, quant à moi, une autre perspective, avec comme appui un article de Walter Benjamin intitulé « Critique de la violence ». Et dans cet article, daté de 1920-1921, Walter Benjamin envisage la violence de façon très synthétique, très efficace, par le prisme simple des moyens et des fins. « De quelque manière qu'une cause agisse, écrit Walter Benjamin, elle ne devient violence qu'à partir du moment où elle touche à des rapports moraux. Le domaine de ces rapports est caractérisé par les notions de droit et de justice. C'est ce rapport, Goya le questionne obsessivement dans ses dessins, ses peintures, ses gravures. Une violence qui profane toute justice dans les fins qu'elle poursuit et une violence démesurée quant aux moyens qu'elle applique contre le crime. Le droit naturel s'efforce de justifier les moyens par la justice des fins. Le droit positif s'efforce de garantir la justice des fins par la légitimité des moyens. Justice des fins, légitimité des moyens. Voilà mon avis. Le cerveau noir de Goya nous plonge dans quatre modalités de violence. Une violence injuste, une violence démesurée, une violence bouclée sur elle-même, libris, et enfin, une violence tragique, la brutalité illisible de l'histoire, dans une veine mythique ou hegelienne, c'est à voir. Alors l'ultime question qui est le soubassement de ces quatre formules est celle-ci, la naturalité de la violence. La violence est-elle tragiquement une donnée naturelle du vivant et de l'histoire humaine? Walter Benjamin se demande si, pour régler les conflits d'intérêts entre les hommes, je cite, il y aurait d'autres moyens que violents. Oui, il en est un, écrit-il, le dialogue. Le dialogue comme technique d'accord civil. Dans le dialogue, toute violence est exclue. La preuve, écrit Walter Benjamin, c'est l'impunité du mensonge. Précisément, cette impunité du mensonge est à mes yeux une des origines tourbillonnaires du recueil des Caprices. Goya plonge la lame de la satire dans cette impunité du mensonge. Son cerveau noir est une conscience malheureuse et la puissance de l'invention se cogne contre l'impouvoir de la raison. J'y vois le débattement absolu et insoluble entre ce que Abi Warburg nomme les astras et les monstras, à savoir un débattement entre les forces de désagrégation de la culture, les forces de décomposition des formes, où le monstrueux vient grimacer dans l'être, et celles au contraire, les astras, qui élèvent l'être vers la connaissance et la lumière. Impunité du mensonge, donc voici quelques exemples dans les Caprices. Je vais vite, je transmettrai pour PowerPoint et puis. Du mensonge et de la violence, l'homme est comptable et aussi victime. Comptable pitoyablement et victime tragiquement. Rien n'est transparent, tout est occulte, aucune paix n'est assurée, car la violence est toujours latente. Donc nous sommes, en somme, de la part de Goya, face à une critique générale de la violence et de sa naturalité. Voici le plan que je vais suivre pour cette conférence. Première partie, la violence et l'injustice des fins. Mon prisme sera le droit naturel et j'envisagerai la transmutation de la guerre juste en guerre totale. Deuxième partie, la violence et l'illégitimité des moyens disproportionnés. Mon prisme sera le droit positif. Enfin, la violence et l'origine archaïque. Je cite Walter Benjamin, un tourbillon dans le fleuve du devenir. Alors, faute de temps, je n'aborderai pas la violence comme principe systémique du mal social. L'image d'un contrat social gangréné. Donc, première partie. Le droit naturel, écrit Walter Benjamin, acte la violence comme donnée naturelle. Pour lui, l'application des moyens violents à des fins justes va de soi. Et de fait, Goya, en 1808, grave sur la lame de son couteau un squelette ailé qui saisit un aiglon chétif et dérisoire. Sur le manche, il ajoute un faisceau d'armes. Et à son extrémité, ces mots tranchants, Muera nuestra princesa, Goya 1808. Alors, ce couteau révèle chez Goya cette conviction, cette guerre est une guerre juste, qui justifie dans ses fins l'application de moyens violents. Manuel José Quintana parle lui aussi d'une guerra justa, necesaria, inévitable. Une guerre qui est doublement fondée. Cette guerre n'est pas offensive, mais défensive, car elle est la riposte à une agression contre la souveraineté de la nation, et elle est d'autre part par le fait de tout un peuple qui lutte pour sa liberté, et non pas, comme dans le passé médiéval et classique, un affrontement entre armées conventionnelles. Donc dans ses causes comme dans ses fins, cette guerre est juste. Cette guerre va se transmuter en guerre totale, et tout le recueil des désastres en échantillonne les images. Dès ses deuxième et troisième gravures, Goya nous projette ex abrupto dans une guerre qui a été complètement coupée de sa causalité. La brutalité sans visage ou aveuglée s'y montre à ce point impitoyable que les causes politiques sont impuissantes à expliquer comment on a pu en arriver là. Une guerre sans pitié où la pulsion de mort hallucine les hommes. La guerre totale s'oppose terme à terme à la guerre réglée de l'ancien temps. D'une façon générale, la guerre au XVIIIe siècle tendait à être de plus en plus limitée sur le terrain et elle visait de moins en moins à détruire l'ennemi, il s'agissait plutôt de l'empêcher d'attaquer. Par ailleurs, les souverains, qui étaient tous cousins, finissaient toujours par se réconcilier à la fin, quitte à reprendre les armes ensuite, mais sans ressentiment durable. La guerre totale est tout autre. En voici les quatre paramètres. Premier paramètre, Elle met en mouvement des masses de combattants jamais vues auparavant. Elle supprime toute distinction entre militaires de métier et civils. La Voix Dorada donc est la traduction par Goya de l'une des héroïnes du siège de Saragosse, Maria Agustí. Elle a été établie il y a quelques mois par un chercheur allemand. Et cette guerre va se muter également en guerre civile. Deuxième paramètre, la guerre totale est animée par la volonté de vaincre l'ennemi jusqu'à sa destruction totale, complète. C'est une guerre qui est sans quartier. Elle rejette la négociation et elle s'affranchit totalement du droit de guerre et du droit des gens. La guerre d'indépendance marque donc une rupture dans le continuum historique de la tradition guerrière. Troisième paramètre, une guerre totale est une guerre qui ne peut pas être arrêtée par ceux qui l'ont déclenchée. C'est une guerre qui a dégénéré, dont la clarté des motifs et des fins a complètement disparu. Dans son traité de la guerre, conçu entre 1816 et 1830, dans le contre-coup donc des guerres impériales, le théoricien prussien Clausewitz essaye de penser la guerre en posant cette question: que cherche-t-on à atteindre en elle et par elle? Et Goya avait déjà répondu. Que cherche-t-on à atteindre à travers elle? On ne sait pas, on ne sait plus. La violence dans cette image prend appui sur elle-même, sans finalité, dans la nudité de la pulsion de mort. Voyez la figure de l'hydre se dessiner dans le personnage. Goya répercute le crâne dans la chair du visage et ce crâne se répercute dans les manches. On a un monstre à trois têtes. Quatrième paramètre de la guerre totale. La guerre totale ne relève pas d'une hostilité entre belligérants, mais d'une haine. Une haine où chaque camp dénie à l'autre le droit non pas seulement de se battre, mais d'exister. D'où les atrocités échantillonnées par Goya. L'Europe des Lumières s'était caractérisée par un anti-bellicisme majoritaire au sein des élites intellectuelles, imprégnée du pacifisme chrétien de Fénelon. Le progrès historique réaliserait la paix perpétuelle. Alors certes, comme l'écrit Kant, ce plan secret de la nature, cette téléologie, pourrait induire à son accomplissement des affrontements entre sociétés, entre pays, car le progrès ne se réduit pas naïvement dans le passage manichéen des Lumières, de la barbarie aux Lumières. Bref, les guerres totales de la Révolution française et de l'Empire vont brutalement entraîner une crise du régime d'historicité. Et en 95, Kant, dans son essai vers la paix perpétuelle, met en garde. Aucun État ne doit jamais traiter un autre comme un ennemi injuste. Une situation de Kant, contre lequel il puisse être mené, je cite, une guerre d'extermination. Une telle guerre, écrivait Kant, ne laisserait de place à la paix perpétuelle que dans le vaste cimetière du genre humain. Dans la logique exponentielle de la guerre totale, il y a bel et bien l'option latente de l'extermination. Joseph Léopold Hugo, le père de Victor, parle d'une guerre assassine. En 1810, Hugo ne dénonce pas seulement les atrocités des soldats impériaux, mais la tactique de la terreur salutaire comme méthode de soumission. Les révolutionnaires français furent les premiers dans l'histoire européenne à pratiquer la guerre totale. Hugo lui-même mit en égale balance, les guerres de Vendée, 93-96, et celle d'Espagne. Il faut ajouter la guerre de Calabre, à compter de 1806. Il faut aussi rappeler que Joseph, avant de recevoir l'ordre par son frère de régner immédiatement sur l'Espagne, Joseph avait été placé par Napoléon sur le trône de Naples. L'ancien brigand Fra Diavolo incarnait en Calabre la rébellion patriote. Le cardinal Fabrizio Ruffo coalisait des dizaines de milliers de partigiani, connus sous le nom de Massé, sous la forme d'une armée. Cette armée avait pour nom la Santa Fede, Sainte Foi, car les forces de résistance à Napoléon en Europe ont ceci de commun: que le christianisme contribue à fédérer leurs forces. Le gouvernement de Joseph Bonaparte va recourir en Calabre aux méthodes de la guerre totale appliquées 10 ans plus tôt par la Convention contre la Vendée. Déploiement massif de colonnes mobiles, les colonnes infernales, prise d'otages, représailles contre des villages entiers, exécution sommaire de civils, etc., etc. Et la vie même du major Hugo trace ce fil rouge qui s'étire de la Vendée à l'Espagne en passant par l'Italie, puisque Hugo a combattu les Chouans, les Parmigiani de Calabre et les guerrilleros d'Espagne. Bref, l'Empire napoléonien ne sait plus comment arrêter ce qu'il a déclenché. Et la magistrale erreur de Napoléon est d'avoir cru qu'il ne s'agirait en Espagne que d'une crise dynastique. À aucun moment, il n'avait imaginé une crise de souveraineté. Le 27 avril 1809, la Junta Suprema proclame le Corso Terrestre, par lequel elle lève des troupes de civils, les cuadrillas, et ce faisant, la Junta accorde à ses guerrilleros un statut officiel de soldat de l'armée, avec pension accordée aux veuves. Sur ce point, je reviendrai tout à l'heure. Goya verra dans cette transmutation de la guerre juste en guerre totale la défaite absolue de la pensée. La guerre projettera son cerveau noir dans l'abîme. Comment continuer à penser? Remarquez la coïncidence des titres. L'homme peut crier en vain, nul ne l'entend. Le ciel est vide. Et l'homme est isolé dans la stase du cauchemar. Le sens de la distinction entre une violence légitime et une violence illégitime n'est nullement évident et privateur de l'anime. Et de fait, qu'est-ce que le droit de guerre? C'est un droit qui sanctionne non pas la violence, mais l'excès de violence. Car lutter pour sa vie est un droit naturel pour l'individu comme pour un peuple. Humaniser la guerre, en inhibant sa puissance de débordement, c'est la vocation du droit de guerre. Le droit de guerre est la matrice de ce que l'on nomme aujourd'hui le droit international et le droit humanitaire. C'est par la guerre que le droit des gens s'est petit à petit formulé. Et ce passage à la modernité se joue exactement entre 1700 et 1819. C'est au XVIIIe siècle que la notion explicite d'humanité dans la guerre est théorisée. Aussi, selon moi, est-il légitime d'inscrire les désastres de Goya dans ce vaste mouvement européen de théorisation d'un droit des gens à valeur universelle, obligatoire et permanente. On pourrait citer les écoles allemandes avec Christian Wolff, les écoles suisses avec Durlamaki et Nain de Battel. Dans le texte que vous recevrez, j'ai des compléments en bas de notes que je vais ignorer pour cette conférence. En échantillonnant le chaos de la guerre et les violations du droit, Goya donc contribue, selon moi, à la définition moderne du crime de guerre et du crime contre l'humanité, qui ne sont pas du tout encore théorisés à l'époque. Les mots ne sont pas portés sur ce genre de crime. D'où aussi, selon moi, la puissance en Goya de préfiguration d'autres catastrophes à venir, d'une humanité attentatoire à elle-même, je pense très précisément à la Shoah. Dans son questionnement obsessif de la violence, Goya surplombe le temps en effet. Il dote les victimes du désastre d'un sens hyperbolique. Elles deviennent les déléguées d'autres victimes de l'histoire à venir, comme si la catastrophe de la guerre d'indépendance avait le pouvoir d'hypothéquer le reste du futur. Comment civiliser, comment rationaliser la guerre? Par des accords contraignants et multilatéraux, par des règles de droit permettant d'épargner les populations civiles, protéger les soldats et les officiers de tout acte de cruauté. Comment? Par des capitulations, des amnisties, des trêves, comme pour enterrer les morts, des conventions sur le statut de prisonnier de guerre, sur le sort réservé aux malades, aux blessés, etc. En 1808, le droit de guerre sembla plus ou moins admis. Je passe. Mais très vite, la guerre totale emporta dans sa logique. Le général Carrier, partisan de la terreur, ordonne par exemple en février 1809 que la moitié des prisonniers capturés dans le Nord soient pendus. Le général, le sinistre général, Jean-Marie-Pierre d'Orsen, gouverneur de Burgos et commandant en chef de l'armée du Nord, pend en permanence à une potence devant son bureau, devant les fenêtres de son bureau, les corps de trois guerrilleros. Si des proches viennent à dérober un soir l'un d'entre eux, un prisonnier est aussitôt exécuté le lendemain pour le remplacer. La liste est longue des crimes de guerre du côté français comme du côté espagnol. Soldats français écorchés vivants, ou placés entre deux planches de bois avant d'être sciés en deux. Bon, le Goya ne représente pas ce supplice, mais celui de la partition en deux d'un corps. Mais cette scène a été attestée. Hein. On place un corps entre deux planches et on le scie par la moitié. Soldats énucléés, il me semble que cet homme est énucléé. Soldats émasculés et démembrés, profanation de cadavres, viol. Le corps terrestre d'avril 1809, comme je le disais précédemment, accorde à tout patriote armé le statut de soldat. Ce qui indique ceci, le droit de guerre doit s'appliquer à chacun des membres des quadrillas. Or, il n'en fut rien pour les officiers français. Et la Junta Central va multiplier incessamment les accusations épouvantées. Traitement indigne et vexatoire des prisonniers de guerre, exécution, supplice. Je rappelle que c'est seulement à la Convention de l'Allée de 1907 que les droits de guerre vont être étendus aux milices et aux corps volontaires, c'est-à-dire aux corps paramilitaires, aux guérillas. Nommé brigand, bandit, insurgé, le guérillero n'est pas honorable. Pire, il n'est pas un semblable. Et de cela, de cette profanation, Goya rend compte. Parce que c'est là une tragédie de la culture. Derrière le statut du prisonnier de guerre, il y a en vérité cette valeur hyperbolique du semblable. Quand on perçoit dans son ennemi celui avec qui on va malgré tout conclure une paix, on est soi-même fidèle à sa propre humanité. À sa propre humanité, par-delà des questions d'allégeance au code d'honneur militaire. Cette guerre d'Espagne va déchaîner des puissances d'ensauvagement et la valeur hyperbolique du prisonnier de guerre, on la retrouve dans cette gravure. Une société humaine réduite à une chaîne de prisonniers errant dans le paysage vide et désolé de l'histoire, brutalisée par l'accélération des événements. Ou encore, cette image d'homme aliéné ou persécuté au lendemain du coup d'État absolutiste du 4 mai 1814. La guerre n'est pas seulement la réalisation de l'histoire, définie par Hegel comme la tragédie de l'esprit dans son accomplissement, au sens profond, c'est une tragédie de la culture qui hypothèque l'avenir. Goya aborde donc les régions noires de la violence. Je ne parle pas ici seulement d'Ibris, la violence des passions. Je parle d'une violence qui est à elle-même sa cause, son moyen et sa fin. Ainsi, l'émulation de ces villageois rapportée par Blanco White. Le droit, écrit Walter Benjamin, a précisément vocation à interdire aux individus d'atteindre leur fin naturelle chaque fois que de telles fins pourraient être visées au moyen de la violence. Il est intéressant de voir de quelle façon Goya exprime l'ambivalence à ce sujet du droit pénal. Cette justice pénale criminelle, pour que le spectacle de sa propre violence soit édifiant, soit coercitif, cette justice pénale flatte chez le public une attirance voyeuriste. Voyeuriste public, toujours placé à l'arrière-plan. La controverse aussi autour de la purge cathartique des passions dans l'espace des arènes. Le célèbre traité de Panis Doros de Arroyo, qui n'est pas du tout de Rovellanos, comme il était indiqué dans cette première édition, enfin, pas la première, mais l'une des premières. Vous voyez ce qu'il dit, de nouveau. On pourrait également, étrangement, mettre en miroir certaines planches de la tauromachia. Un recueil gravé entre le printemps 1814 et l'automne 1816, donc on pourrait mettre en miroir certaines forces de la tauromachia et d'autres images de violence. Le point commun, c'est la media luna. L'affolement des populations. Et ce n'est pas tout. Goya livre aussi, en une bataille à une histoire de l'œil, une image de la pulsion scopique, où la violence migre par le regard en une mélancolie délectable et profanatrice. La pulsion scopique est l'attraction exercée sur l'œil par un objet qui le fascine au sens ancien du mot, charmé, ensorcelé. Goya se saisit ici du bien connu donc général d'Orsay, non pas à la façon d'un reporter de guerre. Cette violence languide du général, on en retrouve d'ailleurs cette indolence tranquille dans d'autres images. Dans l'album composite de Juan Bermúdez, Désastre, prisonnier et colosse, Goya abrège donc de façon cohésive quatre modalités de violence : crime de guerre, brutalité de l'histoire, sadisme voyeurisme et cruauté du droit. Quatre violations donc, celle du droit des gens et du droit de guerre, celle du continuum historique, celle de la loi morale et celle de la justice. Deuxième partie, mes parties sont dégressives, elles sont de plus en plus courtes. Le droit positif, écrivait Albert Benjamin, s'efforce de garantir la justice des fins par la légitimité des moyens. Loin s'en faut, dénonce Goyard. Il est non seulement ce droit injuste dans sa définition des délits, pour aimer une mule, se marier avec les personnes que l'on voulait épouser, pour avoir écrit, pour ne pas avoir écrit pour des idiots, et peut-être pour avoir embrassé la cause du libéralisme. Ce droit donc n'est pas seulement injuste dans la définition des délits, mais il est aussi injuste dans les moyens auxquels il a recours, des moyens sans mesure avec les fins qu'il poursuit. L'intérêt du droit à monopoliser la violence en l'interdisant à l'individu ne s'explique pas, écrit Benjamin, par l'intention de protéger les fins légales, mais plutôt par celle de protéger le droit lui-même. Et précisément, Goya incrimine un droit pénal qui s'est détourné de son devoir de sûreté vis-à-vis du peuple. C'est un droit qui abuse de la violence pour se conserver lui-même, dans son injustice. Injustice où s'organise le sadisme de l'institution. De la guerre à la dispensation de la justice criminelle, une même cruauté part pour l'individu et le pouvoir. L'État est délinquant et sa violence viole le pacte qui le fonde. Je parle ici de profanation. Voici un exemple de cette analogie entre la guerre et le droit criminel. Le 18 août 1806, le célèbre brigand El Malagato est conduit à la potence. Et l'exécution ne suffit pas. La justice va ordonner de déposer son cadavre. Les membres d'El Malagato vont être dispersés aux divers lieux de ses méfaits sur les grands chemins de Castille et d'Estremadura. De ce dépeçage judiciaire à vocation édifiante, on retrouve la formule pendant la guerre. Cette volonté d'anéantir l'humanité de l'ennemi. La guerre organise une grande anthropophagie bestiale où l'homme est mis à l'étal du boucher. Goya s'inscrit pleinement dans une militance en Espagne et en Europe en faveur d'une réforme du système pénitentiaire, d'une humanisation du droit pénal, de sa sécularisation aussi. Il est évident que Goya partage les valeurs de Cesare Beccaria qui avait publié en 1964 un traité d'un immense écho en Europe, des délits et des peines. Traité dont le grand principe était la juste proportion entre la peine et le délit. Goya fréquentait de nombreux juristes, ils n'étaient pas tous pénalistes. Il en était à réaliser un doctorat en droit canon. Manuel de Larguifarral faisait partie des fréquentations de Goya. Goya connaissait bien son frère, Miguel, qu'on retrouve également dans le personnage de gauche de la Junta des Philippines. La prison n'accueillait en principe que les personnes qui étaient emprisonnées à titre préventif et parmi les condamnés, ceux qui l'avaient été à des peines légères. Or, dans la pratique, la garde des prévenus et la mise en sûreté des condamnés légers relèvent proprement du supplice. Souffrance physique de la mise au fer, vexation, sadisme des agents de prison. Le droit tolère donc qu'une violence arbitraire se déchaîne dans le secret des cachots. Goya s'en indigne, à l'instar des criminalistes comme Manuel de Larguifarral. En 88, Charles III rappelait que la prison avait pour vocation la garde et non l'affliction des accusés. La custodia y no la affliction de los reos. Donc, lit de pierre, manille au poignet, grillos aux chevilles, collier de fer, barre, chaîne, anneau, tout un arsenal relevant de pratiques supplicières, une torture illégale, clandestine et arbitraire. L'album C est un journal politique, militant et secret. Sur les 126 dessins qui le composent, 8 sont consacrés aux peines inquisitoriales et 22 à la réclusion et à la torture. Un monde de prostration et de dérédiction, d'écrasement dont seule la mort peut délivrer. La mort, et je dirais aussi le sommeil. On a ici presque une inversion du caprice 43. Le songe de la prisonnière va la délivrer de ses monstres. Les monstres de la prison. Cette violence du droit criminel est mise au secret, soustraite au regard. Quant à la torture, les dessins de Goya sont assez explicites pour que je m'abstienne de commentaires superflus. Troisième partie, j'en ai tous. Donc, la violence et l'origine archaïque, un tourbillon dans le feu du devenir. Les albums C et F, ce sera ma conclusion en fait. Les albums C et F brassent les temps. Leurs images violentes ne sont pas seulement intempestives, en nous inquiétant encore deux siècles après. Elles entremêlent les époques. Galilée et Farfatin se tiennent au milieu de prisonniers de droit commun contemporain. Goya trace là un continuum historique en visant autant les temps passés que les temps à venir. Et j'y vois aussi, quant à moi, cet affrontement immuable dont parlait Abi Warburg, hein, des astras et des monstras, Abi Warburg dans ses travaux d'histoire de l'art et son album Némosine. Cette lutte à mort de la culture contre tout ce qui conspire à sa destruction. La conscience malheureuse de Goya et de son cerveau noir est celle de son intégration à la catastrophe collective. Voyez cet autoportrait glissé dans la 27e planche des désastres. Goya a une intelligence tragique du réel et de l'histoire, hegelienne ou archaïque. Cette lutte à mort de la culture, Goya la formule par hyperbole. Vous voyez ici, par exemple, l'abjuration de Galilée transformée en supplice, ce qui contredit la vérité historique, la vérité biographique. Ici, le sculpteur Torrigiano. En 1528, Torrigiano préféra se laisser mourir de faim dans les cachots de l'Inquisition sévillane afin d'échapper à la torture. Torrigiano est un emblème de la destruction de la culture et de sa persécution. Goya lui-même, vous savez, devra comparaître devant le tribunal de la foi en 1815 pour sa Mahabe et Pesnuda. L'emprisonnement, la réclusion, l'isolement forment un thème cohésif et générique dans l'œuvre de Goya, au-delà même de considérations pénales. La privation de liberté, qu'elle soit subie, infligée ou consentie, l'aliénation sont un invariant de l'univers mental de Goya. Je dirais plus, la violence est un paradigme. Paradigme pour deux idées générales sur lesquelles je conclurai. La dislocation de l'homme, un thème prégnant dans l'œuvre. Dislocation et démembrement. Je te rejoindrai, Marc, pour le commentaire de cette image. Hein, au premier plan, vous avez le corps d'une femme qui est comme un pantin entièrement désarticulé. Hein. Cette dislocation, Goya la formule au-delà du motif par les ressources mêmes du dessin, par sa grammaire. Je vais ici parler du raccourci. Combien de figures humaines disloquées dans d'étranges perspectives, dans ce que j'appellerais de bizarre anamorphose. Vous voyez le premier plan de la gravure 12, également dans la gravure 23. Cet homme au premier plan. Le mot même de raccourci, escorzo, est défini dans le dictionnaire académique de 80 en ces termes. Degradación de un cuerpo tuberoso o irregular en virtud de la perspectiva. Je n'en dirai pas plus parce que c'est le sujet d'un article que je suis en train d'écrire. Et la deuxième grande idée générique que Goya formule par le paradigme de la violence, c'est l'origine archaïque comme tourbillon dans le fleuve du devenir. De façon obsessive, Goya va fixer des images intranquilles d'une communauté humaine duplice et profondément antagonique. Même les vieilles se bagarrent. L'album F, réalisé entre 1812 et 1823, selon Pierre Gassier, en multiplie les formules. Tout y passe. Même la fessée. D'autres images. Cette violence est non seulement structurelle et systémique, mais elle existe dans l'œuvre de Goya à la façon d'une origine tourbillonnaire. C'est une formule de l'archaïsme survivant et toujours actif. L'archaïque échappe à la chronologie linéaire. C'est une hantise du présent, comme les Grecs anciens l'avaient bien compris. Arché en grec ancien signifie ce qui est premier, au commencement. Et arché signifie également ce qui commande, ce qui dirige, comme dans le mot architecte. Autrement dit, l'archaïsme, dans le sens grec du terme, veut dire ceci, toute chose est sous l'autorité de son origine. Que cette origine soit une puissance dormante, qu'elle fasse effraction. Et c'est ça la violence dans l'œuvre de Goya. Goya la représente dans son autorité native. L'archaïque est ce qui travaille le temps et l'esprit comme un impensé. La violence dans l'œuvre de Goya est l'origine dans son éternel retour. Et c'est pour cette raison que Goya va se saisir du mythe pour l'approcher. Voilà, je vous remercie.